Vision d'Histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais, je suis historienne. Fait plaisir de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Félix-Gabriel Marchand, qui a été premier ministre du Québec à la fin du 19e siècle, et sa relation toute particulière avec le domaine de l'éducation. Et pour ce faire, nous recevons avec grand plaisir M. Jocelyn Saint-Pierre, historien, retraité mais bien occupé. Donc, il a été retraité de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour M. Saint-Pierre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et il est venu avec un collègue, M. Jonathan Livernois, que nous recevons pour la première fois avec plaisir, qui est professeur au département de littérature, théâtre et cinéma à l'Université Laval. Bonjour, M. Livernois.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que vous êtes un spécialiste de l'histoire des idées et de la littérature au Québec.
Oui, exactement. Tout particulièrement les rapports entre politique et littérature. Donc, Félix-Gabriel Marchand est un beau cas.
Tout à fait. C'est la première fois, je crois, que vous travaillez ensemble. Comment est née cette collaboration-là?
En fait, moi, j'ai connu Jonathan il y a bien longtemps, une conférence que tu avais fait à Québec, et on a été membres de la Société du patrimoine politique, tous les deux, qui a été fondée par Marcel Maas, et puis moi, avec Mathias Rioux, puis Jonathan, on trouvait que Marchand avait été oublié. Alors, on s'est dit, faut absolument faire quelque chose pour Marchand. Alors, on a eu l'idée de faire une activité à l'Assemblée nationale. Et Jonathan, après ça, c'est là qu'on a produit, on a écrit l'article dans Le Devoir sur Marchand.
Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jocelyn Saint-Pierre et quelques autres ont travaillé à la reconstitution des débats de l'Assemblée législative, qui est une tâche colossale. Pas une tâche, mais disons, une somme que j'ai découverte avec bonheur quand j'ai fait mes premiers travaux sur les rapports entre politique et littérature. Donc, c'était très impressionnant. Et puis, bon, je le connaissais comme ça, donc très heureux de pouvoir partager avec lui. Puis, on voit bien toute l'importance de ces documents-là encore maintenant. Je suis en train de travailler une histoire de la Révolution tranquille en politique et en littérature. Et voilà, encore une fois, tous ces documents-là sont primordiaux.
Il est intéressant de voir une forme de synergie, puisque vous travaillez sur la Révolution tranquille et M. Saint-Pierre travaille sur une biographie de Jean Lesage.
Ouais. Oui, je cite Jocelyn à quelques-uns. C'était jasé un peu de Jean Lesage.
Puis, en fait, moi aussi... J'ai commencé ma carrière à la bibliothèque en 1974. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai reconstitué les débats de la session de Félix-Gabriel Marchand. Alors, j'avais fait... C'était un peu fou, là, mais je me souvenais pas que j'avais fait cette reconstitution-là. Mais bon, alors, je connais la session, mais ça fait déjà quelques années, là.
Et c'est un premier ministre du Québec, on va voir sa carrière auparavant, qui a eu un court mandat, vraiment très court, 1897-1900. Et vous écrivez, c'est un homme politique d'un autre temps. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bon, on peut peut-être dire une chose, au fond, sur cette espèce de charnière. Félix-Gabriel Marchand est là un peu à la fin d'une carrière. Vous parlez d'un court mandat, c'est vrai, mais il a été là depuis 1867 au moins. Donc, on l'appelle le père Marchand, c'est pas pour rien. Il est là depuis un certain temps. Mais donc, au moment où les hommes politiques deviennent un peu, beaucoup, dans certains cas, des hommes d'affaires, la question des ressources naturelles, par exemple, qu'on va plus ou moins brader à différentes compagnies, toute la question sur des chemins de fer auparavant, il y a tout un jeu qui se crée. Il en fait partie dans une certaine mesure, mais il n'est pas tout à fait représentatif de cette génération. Au contraire, il a cette espèce d'humilité et d'honnêteté qu'on lui reconnaît depuis toujours, et il est donc un peu à côté. Alors, c'est pour ça qu'il représente un peu un barreau d'honneur pour cette forme d'homme politique, disons, comme Chauveau, comme peut-être plus qu'on retrouvait au milieu du 19e siècle.
Et Jocelyn Saint-Pierre, comment ça se fait qu'il est un peu oublié? Parce que c'est pas le premier nom qui nous vient en mémoire quand on pense au premier ministre du Québec.
Oui, je me suis interrogé là-dessus. D'abord, son mandat a été court. Moi, je pense que le fait de décéder en fonction, ça a écourté son mandat. Parce qu'il aurait pu revenir avec ses projets, éventuellement. Et c'est un homme politique qui a pas fait de vagues. Il n'a pas fait de scandale. Il n'a pas été pris dans des affaires comme le scandale de l'abbé des Chaleurs. Et c'était un bon père de famille. Dans la politique, c'est pas fréquent. Et puis, on raconte que lorsqu'il était à l'Assemblée, ses enfants allaient le voir. Alors ça, c'est extraordinaire. L'autre chose, moi, je pense que c'est un député régional, hein, de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est pas Montréal.
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Hein, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, et c'est pas Trois-Rivières. Et des premiers ministres des régions, il y en a peu et beaucoup. Hein, c'est toujours beaucoup, beaucoup de Montréalais. Très peu de gens de la ville de Québec. Et je pense que ça explique... Puis la dernière chose, ben, c'est qu'il est entouré tellement de personnalités fortes. Hein, il y a Mercier, il y a Chapleau, il y a Laurier. C'est toutes des pointures politiques. Là. C'est des gens qui ont fait des grandes carrières, qui ont été adulés par la population. Donc, Marchand, il joue un peu les seconds rôles. Puis il est plutôt régional que, je dirais, d'envergure provinciale. On peut dire ça comme ça.
On dit parfois que Félix-Gabriel Marchand, il est au cœur d'une presque première révolution tranquille. Je ne sais pas si c'est vous ou d'autres auteurs que j'ai consultés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et vous qui travaillez actuellement sur la révolution tranquille, quand on dit une presque première révolution tranquille?
Parce que la révolution tranquille, la principale mesure, c'est l'éducation. Bon, on a l'électricité, on a l'aspect financier avec la Caisse de dépôt, mais la mesure sur l'éducation, c'était fondamental. Il fallait commencer par ça. Et Marsan, ben, c'est un peu cette mesure-là qu'il a voulu, faire. Et en travaillant sur le SAG, j'ai vu comment le Conseil législatif pouvait être nuisible. Franchement, il a bloqué. Le SAG a voulu l'abolir aussi. Ça n'a pas été possible. C'est Jean-Jacques Bertrand qui a réussi à le faire. Parce que les conseillers législatifs devaient voter leur propre disparition.
Conseil législatif, juste pour nos auditeurs et auditrices qui sont plus jeunes, c'est l'équivalent à peu près du Sénat à Québec, là, quand
oui,
on parle de ça.
C'est ça. Fait le Sénat. C'est ça, c'est le Sénat.
D'accord.
Puis ça existe des Sénats comme ça, il y en a en France, un peu partout, mais celui-là n'était pas élu. Les gens étaient nommés sur une base politique et ils étaient là jusqu'à la fin de leur jour. Et puis, ils n'étaient pas nombreux, 24, mais ils n'étaient pas toujours très assidus. Puis, ben, d'abord, ils étaient assez âgés, donc il y en avait plusieurs qui étaient malades. Enfin, c'est toute une histoire.
Une autre histoire, un autre sujet potentiel. Monsieur Livernois, cette première révolution tranquille-là, vous y voyez aussi un intérêt à associer ça à Félix-Gabriel Marchand?
Oui, c'est une image. Hein, je pense qu'il y a un intérêt heuristique à la chose. C'était Gérard Bergeron, le politologue, qui avait proposé cette idée-là. Fernand Dumont en parlera pour les années 30 d'une première presque révolution tranquille. On la cherche, hein. Mais il est vrai qu'il y a dans cette histoire québécoise des moments où le mur, là, pour reprendre l'image de Bordua, là, ben, il y a des trous, il y a des fissures. Et là, on le voit, il y a une tentative quand même d'une certaine modernisation. Puis, comme le dit très bien Jocelyn, c'est l'éducation qui, à ce moment-là, avec des mesures qui sont pas quand même non plus si radicales, on les verra tantôt ou la semaine prochaine. Mais chose certaine, il y a une volonté très claire. C'est un homme moderne, ça. On a parlé du rapport à sa famille. C'est très touchant. On pourra en reparler aussi. Bref, première révolution tranquille par une espèce de volonté de faire certaines brèches dans un mur de la réaction, disons.
Et pour faire cette recherche, ce colloque autour de Marchand, vous avez utilisé bien évidemment les débats qu'on a mentionnés tout à l'heure. Y a-t-il d'autres sources qui vous sont venues en tête pour travailler sur Marchand?
Ah ben oui. Il y a Dave Turcotte, oui, qui est un ancien député de Saint-Jean, puis qui est un passionné d'histoire. Donc, il connaissait bien Marchand et il a fait une présentation, un site Internet assez extraordinaire, avec des photos. Il est spécialiste dans les objets aussi. J'invite les gens à aller voir ce site-là. C'est magnifique. Il y a des photos, puis l'histoire est vraiment très intéressante. Et il a travaillé aussi avec Alex Tremblay-Lamarche. Alors, Alex Tremblay, Lamarche, il a travaillé sur le SAG. Marchand.
Ben oui, puis il a travaillé à la maîtrise sur les rapports aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre les anglophones et francophones. D'ailleurs, on verra par la vie même de Félix-Gabriel Marchand comment les milieux anglophones et francophones se côtoyaient. Donc oui, il y a cette source-là. Il y aura également le bon vieux DBC qu'on consulte souvent, le Scanner biographique canadien, qui a été fait. L'article en tant que tel a été fait par Jean Hamelin, l'historien. On aura aussi des travaux chez Sophie Drouin, qui a travaillé davantage sur les filles de marchands, qui elle aussi, notamment Joséphine Marchand d'Endurant, qui a été un personnage très important.
On a déjà fait deux émissions sur
elle. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, il y a de la matière, mais en même temps, on n'a pas une somme, disons, comme pour René Lévesque ou comme pour même Maurice Duplessis. Ça montre bien l'intérêt relatif à certains égards de cette période entre deux aussi. Vous évoquiez, Jocelyn, tu évoquais, je vais te tutoyer quand même, tu évoquais l'idée de Mercier, de Laurier, t'es un peu pris entre deux. Donc, vous voyez, c'est pour ça peut-être qu'on l'a mis de côté.
Et moi, j'ajouterais, je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a d'abord le site Internet de l'Assemblée, là, à la bibliothèque, qui est enfin, je suis mauvais juge, mais il est excellent. Il y a une chronologie, il y a une biographie de Marchand, il y a tous les résultats électoraux. Et moi, en travaillant sur, en travaillant depuis quelques années, j'ai découvert le BANQ numérique. Je sais pas si les gens connaissent ça, mais à la Bibliothèque nationale à Montréal, on a les exemplaires de tous les journaux publiés au Québec depuis leur fondation. Tous les journaux régionaux, les quotidiens. Il s'agit d'aller sur BANQ numérique et vous allez avoir accès à toute la période de Marchand.
Messieurs, si maintenant on essayait de découvrir ensemble le parcours qui est assez imposant, donc de Félix-Gabriel Marchand, on pourrait commencer par sa famille. Vous avez évoqué que c'est un homme de famille. Qu'est-ce qu'on sait de sa famille au départ?
On peut parler de Gabriel Marchand, son père d'abord, qui est un marchand, justement, qui va être un marchand de bois, qui va être l'employé de M. McNider à Québec. Il va venir s'installer à Saint-Jean. Saint-Jean, on est à côté, c'est sur le Richelieu, c'est le lac Champlain. Il y a des terres, on coupe du bois, il y a tout un commerce. Ce qu'on appelle Dorchester, ce qui va devenir Saint-Jean-sur-Richelieu, se développe beaucoup à cette époque. Il s'y installe. Donc, ce premier, Gabriel Marchand va épouser une dame qui meurt malheureusement très tôt, donc il n'y a même pas de descendance, mais va épouser la fille de son ancien patron, Monsieur McNider. Et c'est comme ça que le jeune Félix-Gabriel Marchand va se retrouver dans une double culture. Autrement dit, il va, d'un côté, apprendre il va être élevé dans la culture anglaise, la langue anglaise, mais en même temps dans la religion catholique, pour un temps. Et ça donne une drôle de situation. Donc, on le voit à l'école primaire en anglais. Ensuite, pour les études supérieures, entre guillemets, on va le retrouver au collège de Chambly. Puis plus tard, on va le retrouver au séminaire de Saint-Hyacinthe.
Oui, séminaire de Saint-Hyacinthe, qui est une pépinière de rouge, là.
Des libéraux, vous voulez dire.
Oui, non, Thédé Bouchard, il y en a plusieurs, là. Alors, il était entre bonnes mains.
Et donc là, il fait ses études donc au séminaire de Saint-Hyacinthe, et là, il se prépare à devenir, si je me souviens bien, notaire.
Oui. Alors, à l'époque, le notariat, c'est comme le droit, ça ne s'apprend pas dans les universités. On apprend ça dans un bureau de notaire, on devient clerc de notaire. Et même s'il a fait son cours classique, cours classique d'ailleurs, parce qu'il a arrêté en rhétorique. Donc, il était aidé ou dirigé par un notaire, qui était un notaire de profession.
Et il va s'intéresser aussi, si je me souviens bien, puis je vais regarder M. Livernois, aux journalistes et aux journaux aussi.
Ben c'est tôt. Bon, c'est, vous savez, ça se développe assez rapidement à ce moment-là. On a du temps comme clerc notaire. Hein, très souvent, c'est il y a du travail à faire, mais on peut se promener un peu. Mm. Et il prend sa place de plus en plus dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il va fonder un premier journal en 1860 avec d'autres, qui va s'appeler le Franco-Canadien. Qui, on en reparlera, mais ça existe encore sous un autre nom. Et là, bon, ben, l'idée, c'est de défendre un point de vue, disons, libéral, mais catholique. On n'est pas... Jocelyn évoquait les Rouges. On a certaines amitiés chez les Rouges, mais disons qu'on se veut ici plus proche d'un libéralisme modéré, qu'il a probablement bien connu aussi au séminaire de Saint-Hyacinthe.
Et à cette époque, il y a une forme de menace dans le décor, si je me souviens bien avoir lu. On parle des Fenians.
Mm-hmm. Oui. En fait, c'est que c'est des Irlandais. Qui ont participé à la guerre de sécession. Et après la guerre de sécession, ils sont restés aux États-Unis. Et eux, leur objectif, c'était de pénaliser, d'empêcher la Grande-Bretagne, en fait, que la Grande-Bretagne accorde l'indépendance à l'Irlande. Alors, ils faisaient pression sur les Canadiens, sur les Américains, et c'était plus dans le Haut-Canada. Mais Saint-Jean, c'est proche de la frontière américaine, hein? Puis il y a eu des incursions des Fenians à plusieurs fois. Donc, Marchand a été dans la milice. Il y avait une milice, là, c'était dans le 22e bataillon d'infanterie légère du Richelieu. Alors, il a participé à la bataille. Il a été un bon chef militaire. Mais finalement, lorsque les Fenians ont vu arriver les forces britanniques en renfort, là, ils ont décampé. Alors, c'est un peu ça. C'était des Irlandais qui défendaient l'Irlande, forcer l'Angleterre à céder, à accepter l'indépendance de l'Irlande.
C'est un homme aux multiples visages, parce qu'on a parlé tantôt de notaire. On vient de parler un petit peu, on a évoqué la question de journaliste de journaux. Puis c'est aussi un homme d'affaires. Donc, c'est un homme qui a, je dirais, la main à la part de plusieurs choses.
Oui, c'est assez typique de ces hommes du 19e siècle, bourgeois, disons, qui profitent de la situation aussi de Dorchester, qui est en plein développement, je le disais, ce qui fait qu'il peut s'investir dans toutes sortes de choses. Même, il y aura les compagnies de chemin de fer, dont il va faire partie un peu plus tard. Il est donc aussi notaire de ces grandes compagnies. Il y a donc cette espèce de cercle, je dirais pas vicieux, mais les choses se passent autour des mêmes personnes, c'est normal. Et puis on peut même anticiper un peu sur la politique, si vous voulez, parce que, vous voyez, très rapidement, ben il passe quoi? Il est conseiller municipal, ensuite va devenir président de commission scolaire, il devient un notable. Et là, on comprend rapidement que la prochaine étape, ben ce sera peut-être la députation.
Donc, la politique provinciale va l'attendre.
Mais Marchand, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a presque tout exercé, toutes les fonctions que quelqu'un peut faire en politique. Il a tout fait, sauf conseiller législatif.
Je pense qu'il était content aussi.
Et maire de Saint-Jean. Alors, il a tout fait. Il a été ministre, député, chef de l'opposition, même président de l'Assemblée, orateur. Il a tout fait. C'était un homme qui avait une expérience politique assez exceptionnel.
Jonathan Livernois, on a dit que Marchand n'a pas été premier ministre longtemps, mais il y a quelqu'un d'autre qui a été encore moins longtemps premier ministre, c'est Joly de Lotbinière, 1878-1879, c'est un cas d'exception dans l'histoire du Québec.
Oui, on a parlé du fameux coup d'État de l'hôtelier de Saint-Just. Très rapidement, là, il y a des grands problèmes avec les chemins de fer, les taxations, les municipalités ne sont pas très contentes. Donc, le lieutenant-gouverneur, qui est l'hôtelier de Saint-Just, un libéral, va carrément congédier le gouvernement en place, qui est conservateur, et dire à Joly, qui est un libéral, voici, vous devez former le gouvernement. Évidemment, ils sont minoritaires. élection très rapidement. Et là, on va se retrouver 32 à 32, je me souviens bien. On va réussir à séduire quelques conservateurs, dont le président de la Chambre. Ça va tenir pendant un certain temps, mais c'est un gouvernement qui a les mains liées, il ne peut pas faire grand-chose. Et on retrouve, évidemment, notre Marchand là-dedans. Marchand va être secrétaire de la province, va être auteur de la couronne. Donc, il entre dans un gouvernement, mais ça ne durera pas très longtemps. On vous l'avait bien dit, c'est de 78 à 79.
Oui. Et Marchand, c'est un homme d'affaires. Hein? Donc, il gère les ministères comme un homme d'affaires. Il a géré les finances publiques comme un banquier. Il a été fondateur de la Banque de Saint-Jean. Et ça, c'est rare. Marchand avait cette compétence-là. Il savait compter. C'était vraiment, je pense, ça a été un grand ministre des Finances, sans le titre.
Tout à fait. Et là, quand on parle de cette époque-là, il ne faut pas oublier une autre variable, je pourrais dire, la question de l'arrivée dans le décor du Parti national d'Honoré Mercier.
Oui, Mercier est un personnage assez fascinant parce que, bon, il y avait Joly, le lieutenant de Joly, c'était Marchand. Et là, il y a Mercier, qui est l'étoile montante, Barack Obama du parti libéral, qui veut en finir avec les fameuses luttes fratricides. Donc, quoi? On se dit Parti national. Dans quoi? Essentiellement, c'est le Parti libéral avec quelques conservateurs modérés. Mais il veut jouer cette idée de sortons de nos luttes, élevons-nous. Très populaire comme personnage, Mercier, effectivement. Et, il va prendre le dessus. Et en 86-87, ça va être lui qui va être élu premier ministre. Et Marchand, on va le voir, mais il ne sera pas au Conseil des ministres, mais dans une position assez importante.
Oui, Mercier, c'est un grand homme politique. Il a malheureusement été mêlé à un scandale, mais juste une indication. Il a fait un discours à Montréal pour défendre Riel, notre frère, qui avait attiré une foule extraordinaire. Alors, c'est un grand homme politique, mais malheureusement, qui a été accusé à tort parce que, finalement, dans le scandale de la baie des Chaleurs, finalement, il n'a pas été condamné pour ça.
Et dans quel contexte Félix-Gabriel Marchand devient orateur de la Chambre?
Oui, c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu être ministre, mais probablement que dans le cabinet Mercier, il y avait des vedettes politiques aussi. Là. Alors, Marchand devient orateur et il a pris cette tâche-là très, très au sérieux. D'abord, il a mis fin au patronage, parce qu'on raconte que en face du Parlement, quand il y avait un changement de gouvernement, il y avait plein de gens qui voulaient avoir un emploi à l'Assemblée législative à l'époque. Puis c'était du patronage éhonté. Alors Marchand a mis fin à ça, parce que ça dépensait. Il voulait contrôler les dépenses de la Chambre et il voulait éviter les dépenses inutiles. Alors, comme président, il a été un bon président. Il a été élu justesse, hein, comme tu l'as dit. Là. C'est les huit veaux conservateurs. On les appelait les huit veaux, hein, qui avaient voté pour lui. Puis sa formation de notaire le servait bien. Parce que l'administration de l'Assemblée, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est l'administration des projets de loi, c'est l'administration du salaire des députés, des employés. Puis les ministères, à cette époque-là, c'était pas gros. Mais l'Assemblée, c'était quand même assez important. Hein. Il y avait 40, je me souviens plus, là, une cinquantaine de députés, mettons, élus au suffrage universel et qui formaient l'Assemblée législative. Et le premier ministre et les ministres étaient membres de l'Assemblée législative. Fait que Marchand était orateur, on l'appelait orateur, même s'il parlait pas beaucoup, on l'a nommé orateur durant cette période-là. C'est important pour que la machine fonctionne.
Et par la suite, il y a une période de tension, il va devenir chef de l'opposition.
Ben voilà, là, on arrive avec le cas Mercier. Mercier, Jocelyn invoquait la question du scandale de la baie des Chaleurs qui va le couler carrément en 1891. Est-ce qu'il a été coupable, probablement un peu victime de son innocence à certains égards, et surtout d'une volonté de dépenser énormément? Et ce qui posait problème, d'ailleurs, à Félix-Gabriel Marchand, parce que c'était pas... Il aimait le faste, vraiment le faste, hein, merci. Ça va en partie le couler, donc, de cette espèce de super étoile montante, ça va tomber très vite. Donc, en 1892, il n'est plus là. Il va mourir quelques années plus tard dans une espèce de désarroi. Mais ça prend quelqu'un pour relancer le parti, pour reconstruire le parti, puisque les conservateurs reprennent le pouvoir. Et on se retourne vers le père Marchand, qui, lui, est stable et fiable. Ça va être lui qui va donc garder le fort, pour ainsi dire.
Et est-ce que c'est une forme d'antithèse à Mercier, dans le sens que vous nous présentez Marchand comme quelqu'un qui administre bien, qui a l'air d'un bon père de famille? Donc,
c'est un homme posé, hein? C'est pas flamboyant. Moi, je pense que j'ai pas entendu ses discours, je les ai lus, là, mais c'était pas un orateur flamboyant en chambre, là. C'était pas Chapelot, c'était pas... C'était quelqu'un qui était très, très bien documenté, qui était très précis. C'était le langage d'un homme d'affaires, tu sais. Ça a pas été une grande vedette, il a été très efficace dans les dossiers qu'il a eu à traiter.
Et là, il se retrouve, donc, chef de l'opposition en campagne électorale. Comment ça se passe, la campagne électorale?
Il est chanceux, il y a un premier ministre qui vient d'être élu à Ottawa, qui s'appelle Wilfrid Laurier. C'est le début du règne libéral. On s'entend que le 20e siècle a été largement libéral. Ben, ça commence avec Wilfrid Laurier. Donc, Wilfrid Laurier a une influence certaine sur le cabinet à Québec. Il y a, encore une fois, des taxations qui sont assez fortes du côté des conservateurs au provincial. Donc, une campagne électorale en 1897 qui mène, justement, à cette victoire du Parti libéral qui est de retour. Et là, c'est le retour, n'oublions pas, rapidement, on va se projeter dans le temps, mais on est en 1897 et le Parti libéral va être au pouvoir jusqu'en 1936. Ne l'oublions pas. Hein, c'est un long règne. Donc, Marchand se retrouve premier ministre. Est-ce qu'il a son mot à dire sur toutes les décisions de son cabinet? J'en doute pas mal. L'impression que Laurier avait pas mal tiré toutes les ficelles. Mais quand même, encore une fois, on y retrouve cette image de bon gestionnaire, de presque, comme on le dit dans le Code civil, de bon père de famille.
On est déjà à la fin de cette première émission, messieurs. Donc, on va se donner rendez-vous pour poursuivre la carrière et sa relation avec l'éducation de Félix-Gabriel Marchand. Jonathan Livernois, Jocelyn Saint-Pierre, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été là cette semaine.
Merci, au plaisir.
C'était un plaisir.
Merci à Yannick Caron pour la mise en onde, à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une seconde émission sur Félix-Gabriel Marchand et l'éducation avec les historiens Jocelyn Saint-Pierre et Jonathan Livernois.